Bonjour à tous. Donald Trump menace de frapper le site nucléaire iranien de Pickaxe Mountain alors que plusieurs de ses conseillers craignent que la guerre avec l'Iran ne s'éternise jusqu'en 2029. L'Iran réorganise son réseau de proxy au Moyen-Orient en s'appuyant sur les troupes au Yémen et les milices pro-iraniennes en Irak.
Et le bras de fer entre Londres et Jérusalem s'intensifie. Le Royaume-Uni envisage maintenant des sanctions contre les banques israéliennes. Le président Trump entend discuter avec Israël sur ce dossier. Des sanctions contre la Judée-Samarie avant d'émettre un avis. Et le Likoud accuse le chef du parti des démocrates Yair Golan de se cacher derrière les révélations d'Haaretz sur l'avertissement donné à Benjamin Netanyahou avant le 7 octobre 2023.
Et enfin, trafic de migrants, stupéfiants et criminalité. La Belgique et le Royaume-Uni signent un accord de coopération policière inédit depuis le Brexit.
Donald Trump menace de frapper le site iranien de Pickaxe Mountains alors que des mouvements ont été constatés près de ce site situé à côté du complexe nucléaire de Natanz.
Nous constatons un peu d'activité à Pickaxe. Je conseillerais à l'Iran de ne pas jouer au plus malin car nous devrons le frapper très durement, a-t-il déclaré. Donald Trump avait déjà évoqué la semaine dernière la possibilité d'une opération militaire si Washington détectait des activités suspectes, réaffirmant que l'Iran ne serait pas autorisé à se doter de l'arme nucléaire. Ce site hautement fortifié n'a encore jamais été frappé. Sa profondeur et son niveau de fortification en font l'un des sites les plus difficiles à atteindre du programme nucléaire iranien. Des images satellites montrent une accélération de travaux autour du complexe. Des observations qui ne permettent pas toutefois d'établir que l'enrichissement d'uranium a déjà commencé. L'avertissement de Donald Trump intervient au moment où l'Agence internationale de l'énergie atomique a décidé de saisir l'ONU. L'AIEA reproche notamment à Téhéran son manque de coopération et réclame des garanties sur l'absence de détournement de matières nucléaires. L'Iran affirme pour sa part que son programme poursuit uniquement des objectifs civils.
Et plusieurs conseillers de Donald Trump, parmi lesquels J.D. Vance et Marco Rubio, craignent pourtant que la guerre avec l'Iran ne s'éternise jusqu'en 2029.
Le vice-président, le secrétaire d'État et d'autres conseillers auraient évoqué cette hypothèse avec le président Trump lors de discussions à la Maison-Blanche, c'est ce que rapporte le Wall Street Journal. Selon eux, Téhéran pourrait continuer à résister au blocus naval et à la pression militaire. Des avertissements qui contrastent avec les déclarations publiques de Donald Trump. On le voit bien, cette guerre embarrasse le président américain. Elle est impopulaire, elle a déjà coûté la vie à 18 militaires américains et le prix de l'essence a grimpé $1 par gallon. En un an à peine, Washington poursuit néanmoins sa campagne économique contre l'Iran avec blocus maritime et sanctions diverses en espérant que cela finira par faire céder Téhéran.
L'Iran réorganise son réseau de proxy au Moyen-Orient en s'appuyant sur les Houthis au Yémen et les milices pro-iraniennes en Irak. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui sa principale cible.
C'est ce qu'il ressort d'une enquête de l'Associated Press qui montre que cette nouvelle alliance vise l'Arabie Saoudite et ses infrastructures pétrolières et avec un blocus maritime contre Riyad en mer Rouge. Les Houthis du Yémen auraient participé à la préparation d'une vaste attaque de drones menée en juillet dernier par des milices irakiennes contre les installations pétrolières saoudiennes. Des représentants Houthis auraient même rejoint un centre de commandement installé en Irak pour prendre part aux opérations, une coopération qui s'était déjà développée pendant la guerre à Gaza lorsque les deux groupes coordonnaient certaines de leurs attaques contre Israël. Cette escalade fait désormais craindre d'une reprise à grande échelle de la guerre entre l'Arabie Saoudite et les Houthis au Yémen. On est revenu sur ce sujet à 8h30 avec notre invité Ephraim Herrera. Vous pourrez réécouter cet entretien comme tous les autres sur notre site radiojudaica.be. Singapour révèle avoir empêché l'entrée sur son territoire d'un chef de milice iranienne qui prévoyait des attentats contre les communautés juives en Europe.
Mohamed Bakr al-Saidi, un haut responsable du groupe Kataib Hezbollah basé en Irak, programmait des attaques contre des cibles juives en Europe, au Canada et aux États-Unis et ambitionnait de rentrer à Singapour. Bakr al-Saidi avait demandé des visas pour se rendre à 3 reprises dans le pays entre 2023 et 2024, mais l'entrée sur le territoire lui a été refusée. Les activités des gardiens de la révolution islamique iranienne et son réseau de groupes armés supplétifs ont étendu la menace terroriste au-delà du théâtre immédiat des conflits au Moyen-Orient, selon le département de la sécurité intérieure de Singapour. Et le bras de fer entre Londres et Jérusalem s'intensifie. Selon de hauts responsables britanniques cités par la chaîne israélienne N12, le Royaume-Uni envisage des sanctions contre les banques israéliennes qui contribuent au développement des implantations en Judée-Samarie.
Une banque accordant des prêts immobiliers pour des logements situés au-delà de la ligne verte pourrait ainsi être visée. Des chaînes de distribution pourraient également être concernées. Londres envisage un régime de sanctions qualifié de sans précédent qui pourrait également toucher des entreprises et des particuliers fournissant des services liés à la construction, aux infrastructures, au financement et à l'immobilier en Judée et Samarie. La législation devrait entrer en vigueur dans un délai de 6 à 9 mois. Et dans ce contexte, le président Trump va s'entretenir avec Israël au sujet de ces sanctions imposées par la Grande-Bretagne.
Et je vais parler à Israël, je vais leur parler, je vais écouter leur avis. Je comprends parfaitement ce qui se passe, mais je veux savoir pourquoi tout à coup cela s'est produit, a déclaré le chef d'État américain, qui n'a pas précisé si les États-Unis s'opposaient à la décision prise par la Grande-Bretagne.
Et sans surprise, un groupe de 8 pays musulmans salue la décision prise par les autorités britanniques contre la Judée-Samarie.
Le Qatar, la Turquie, l'Égypte, l'Indonésie, la Jordanie, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont publié une déclaration commune pour faire part de leur espoir de voir cette décision participer à mobiliser la communauté internationale pour prendre des mesures similaires conformément au droit international et pour tenir responsables les organisations et les individus impliqués dans des activités de colonisation illégale, je cite. Les ministres des Affaires étrangères de tous ces pays appellent également à la mise en œuvre intégrale et immédiate du plan en 20 points du président Trump pour la bande de Gaza et plaident en faveur de la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale.
Le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar s'entretient avec Nigel Farage, chef du parti de droite nationaliste britannique Reform UK.
Je l'ai remercié pour son soutien et celui de son parti à Israël. Il m'a dit être heureux d'avoir pris la parole lors de l'événement des Amis d'Israël à la conférence du parti à Birmingham la semaine dernière et m'a assuré sans équivoque qu'au pouvoir, son parti réparerait les dommages causés aux relations entre le Royaume-Uni et Israël par le gouvernement travailliste et ses représentants, a écrit Gideon Saar sur le compte X du ministère des Affaires étrangères. Les deux hommes ont aussi évoqué le dossier des Malouines, ces îles britanniques de l'Atlantique Sud, sur lesquelles le président argentin Javier Milei a renforcé ses revendications, les revendications de son pays. Plusieurs dirigeants israéliens, dont le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, ont appelé le Premier ministre Netanyahu à reconnaître la souveraineté argentine sur les Malouines en représailles aux sanctions britannique.
Le Likoud accuse le chef du Parti démocrate Yair Golan d'exploiter les informations du journal Haaretz sur une conversation sensible entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président émirati avant le 7 octobre.
Le Likoud affirme que c'est Mohamed Dahlan, haut responsable palestinien en exil, qui aurait participé à la conversation rapportée entre le président des Émirats Arabes Unis et le Premier ministre israélien. Et c'est lui qui aurait révélé le contenu de la conversation pour renverser le gouvernement de droite dirigé par Benjamin Netanyahou dans le but de prendre le contrôle de la bande de Gaza, selon le Likoud. Pour arriver à ses fins, Mohamed Dahlan a besoin de l'aide d'un gouvernement de gauche faible, composé de Gadi Eisenkot, de Yair Golan, de d'Avigdor Lieberman et des partis arabes, affirme le parti de droite. Un tel gouvernement se retirerait de Gaza et lui en remettrait le contrôle, conclut le Likoud.
Le Likoud qui accuse même le journaliste d'Aretz d'avoir été payé par une association proche du Parti des démocrates.
Le parti de droite assure que le journaliste d'Haaretz Shlomi Eldar, auteur des révélations, aurait reçu un paiement d'une organisation à but non lucratif de gauche associée au parti démocrate de Yair Golan dans le but de répandre ses accusations. Le Likoud évoque aussi la possibilité que la récente visite de Yair Golan et de l'ancien chef du Shin Bet Ronen Bar aux Émirats Arabes Unis pourrait être liée à l'article du Haaretz. Le Likoud exige l'ouverture d'une enquête criminelle contre Shlomi Eldar, Ruth Yuval, le journal Haaretz, Yair Golan et le parti des démocrates, indique le message de la formation de droite et ce en raison, je cite, de soupçons d'ingérence d'une entité étrangère dans les élections en Israël. La polémique sur cette affaire ne cesse d'enfler dans le pays. On reviendra sur ce dossier épineux dès 9h15.
Israël n'a aucune intention d'expulser de force les Palestiniens de la bande de Gaza, c'est ce que déclare Gideon Saar, le ministre des Affaires étrangères d'Israël.
Nous n'avons pas l'intention d'expulser ou de déporter qui que ce soit de la bande de Gaza. Si quelqu'un souhaite immigrer de son plein gré et qu'un pays est prêt à l'accueillir, comme cela arrive dans toutes les zones de conflit du monde, nous ne forcerons personne à quitter le territoire, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères en visite en Slovénie. Une précision qui fait suite aux déclarations du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui révélait avoir un plan de départ pour la population gazaoue.
Les frappes israéliennes au sud Liban menaceraient l'accord cadre, c'est ce que pense l'armée libanaise.
Et l'armée du pays du Cèdre d'accuser Israël de mener une escalade meurtrière dans le sud du Liban ces derniers jours qui, selon elle, menace l'accord cadre entre les deux pays et les efforts de l'armée pour le mettre en œuvre. De leur côté, les autorités israéliennes reprochent à l'armée libanaise de ne pas en faire assez pour remplir sa mission de désarmer le Hezbollah. À noter que l'armée israélienne est sur le point aussi d'achever ses préparatifs en vue de la destruction des tunnels du Hezbollah sur la crête stratégique d'Ali al-Taher au sud du Liban. L'échelon militaire attend le feu vert de l'appareil politique pour procéder à la destruction définitive de l'ensemble du complexe, ce qui pourrait entraîner une réaction de la République islamique d'Iran contre Israël.
Une fois n'est pas coutume, la Ligue arabe dénonce l'ingérence de l'Iran au Liban.
Le texte adopté sur la base d'un projet présenté par Beyrouth soutient notamment la décision du gouvernement libanais d'instaurer un monopole de l'État sur les armes et les décisions de sécurité. En mars dernier, les autorités du pays du Cèdre avaient décidé que les armes devaient désormais être détenues exclusivement par les autorités légitimes et avaient interdit d'ailleurs au Hezbollah de poursuivre ses activités militaires. La Ligue arabe va même plus loin en dénonçant les ingérences étrangères au Liban, en faisant référence explicitement à l'Iran. Les États membres ont également été appelés à mobiliser un appui international en faveur de l'armée libanaise et ce afin de l'aider à sécuriser le territoire, notamment face au trafic et au terrorisme. La résolution aborde enfin les derniers arrangements conclus avec Israël. Elle salue les efforts diplomatiques accompagnant le projet pilote prévoyant un retrait de Tsahal de certaines localités libanaises en contrepartie de mesures destinées à empêcher le Hezbollah de reprendre position à proximité de la frontière avec Israël.
Israël nomme un nouveau chef de mission en Turquie.
Le ministère israélien des Affaires étrangères a nommé le docteur Yoel Lion, qui avait occupé auparavant le poste d'ambassadeur d'Israël en Moldavie jusqu'en avril 2025, mais aussi en Arménie jusqu'au mois d'août dernier. Le diplomate israélien était à Ankara d'ailleurs mercredi pour présenter ses lettres de créance au ministère turc des Affaires étrangères. Les deux parties s'accordent à dire que l'ambassade doit rester fermée pour des raisons de sécurité, a déclaré le responsable israélien. La venue de Yoel Lion marque la première visite d'ailleurs d'un haut responsable israélien depuis le retrait du personnel de l'État hébreu d'Ankara et d'Istanbul. C'était fin 2023. Le représentant israélien a également affirmé que le principal problème entre les deux pays était l'incitation à la haine contre Israël dans les médias turcs. Trafic de migrants, stupéfiants, criminalité, la Belgique et le Royaume-Uni signent un accord de coopération inédit depuis le Brexit.
Bernard Quintin, le ministre de l'Intérieur belge, était à Londres ce mercredi pour le signer. Parmi les conséquences très concrètes de cet accord, les policiers belges pourront désormais porter leurs armes à bord des trains Eurostar. Jusqu'à présent, la transmission de certaines informations aux autorités britanniques nécessitait l'autorisation d'un magistrat. Le nouvel accord va permettre des échanges plus rapides. Le texte prévoit aussi le partage de données sur la reconnaissance des plaques d'immatriculation. La police belge pourra ainsi identifier plus facilement les véhicules soupçonnés de transporter de la drogue, des migrants ou du matériel nautique. Le traité doit également éviter l'interruption d'une surveillance policière urgente lors du passage d'un pays à l'autre. Notre ambition commune est de continuer à lutter ensemble contre le trafic de migrants et la criminalité organisée liée aux stupéfiants qui sévit des deux côtés de nos frontières et exploite la misère humaine, a souligné Bernard Quintin. Le traité devrait entrer en vigueur d'ici 6 à 12 mois. Il aura fallu des années de négociations et 18 cycles de discussions techniques, mais le résultat est à la hauteur, a déclaré Bernard Quintin. Un accord solide, équilibré, qui renforce l'autorité de l'État et la protection des citoyens des deux côtés de la Manche, a précisé le ministre.
À l'approche de l'ouverture au British Museum de l'exposition consacrée à la tapisserie de Bayeux, la polémique bat son plein, notamment à cause des investissements israéliens de son mécène, Igor Tulchinsky.
Les militants pro-palestiniens mettent en cause le milliardaire américain pour ses investissements dans des entreprises israéliennes liées à la défense. Fondateur de la société d'investissement WorldCount, il aurait apporté près de 5 millions de livres à ce projet. C'est l'un des mécénats les plus importants jamais accordés à un musée londonien. Son fonds finance de jeunes entreprises israéliennes actives dans l'intelligence artificielle, la robotique, les biotechnologies et la défense. Parmi elles figure Navero, spécialisé dans les technologies de lutte contre les essaims de drones. Le fonds est par ailleurs dirigé par Saar Tsour, général de réserve et ancien haut responsable de Tsahal. Les opposants à ce mécénat demandent au British Museum de s'expliquer sur le choix de son mécène. Elbit Systems change le nom de sa filiale américaine pour des raisons de sécurité.
Et elle portera désormais le nom de 26 Defense. Ce changement intervient alors que plusieurs de ses sites ont été visés par des manifestations pro-palestiniennes accusant l'entreprise de participer à la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Le nombre 26 fait référence au numéro atomique du fer, choisi pour symboliser la solidité et l'endurance. La direction présente cette nouvelle appellation comme une étape dans l'ancrage de l'entreprise aux États-Unis, sans annoncer de modification de ses activités ni de son lien avec la maison mère israélienne. Ce changement souligne notre croissance sur le marché américain et renforce notre engagement à soutenir les combattants américains partout où leur mission les conduise, a déclaré Luke Savoie, PDG de la filiale, basée au Texas. 26 Defense emploie quelque 3 300 personnes même aux États-Unis. Elle fournit notamment des systèmes de vision nocturne à l'armée de l'air américaine, ainsi que des équipements de surveillance au service des douanes et de la protection des frontières.
Certains supporters du Real Madrid ont entonné des chants antisémites durant la rencontre de Ligue des Champions face à l'Inter Milan au stade Santiago Bernabéu.
Les chants antisémites et racistes ont été entendus mardi soir à Madrid peu avant la rencontre de Ligue des Champions. Des individus présentés comme des ultra-madrilènes ont notamment scandé des slogans visant les juifs et les musulmans aux abords du stade Santiago Bernabéu. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters entonnent notamment un chant menaçant de frapper les juifs qu'ils croiseraient sur leur chemin avant de proclamer que l'Espagne est un pays chrétien et non musulman. Des saluts nazis ont également été aperçus sur certaines images. D'autres séquences montrent des hommes cagoulés brûlant des drapeaux marocains ainsi que des portraits du Premier ministre Pedro Sanchez et du roi du Maroc Mohamed VI. Ces insultes interviennent dans un contexte de forte tension dans le pays, en Espagne, notamment autour de la crise migratoire qui frappe la ville autonome de Ceuta. La justice argentine a autorisé la restitution d'un tableau spolié par les nazis à l'unique héritière du marchand d'art juif néerlandais Jacques Goetsticker, plus de 80 ans après sa disparition.
Intitulé « Portrait de femme », l'œuvre attribuée au peintre italien du XVIIIe siècle, Giacomo Antonio Melchiore Cerruti, a été retrouvée dans une maison de Mar des Plata sur la côte atlantique argentine. Le tableau a été retrouvé grâce à un journaliste néerlandais qui enquêtait depuis plusieurs années sur les œuvres ayant appartenu à Goetsticker en consultant une annonce immobilière concernant une maison proposée à la vente pour 265 000 dollars. Il a reconnu le tableau accroché au-dessus d'un canapé sur une photographie du salon. La propriété appartenait à la fille de l'ancien responsable financier du régime nazi, proche d'Hermann Göring, Patricia Gadkien. Après la guerre, ce criminel nazi avait fui en Suisse avant de s'installer en Argentine où il est mort en 1978. Lorsque la presse irlandaise a révélé la découverte, l'annonce immobilière a été supprimée. Les autorités argentines ont perquisitionné la maison le 26 août 2025, mais le tableau avait été remplacé par une autre œuvre. Son empreinte restait toutefois visible sur le mur. Le juge fédéral Santiago Incosti a ordonné sa remise à la belle-fille et unique héritière de Jacques Goetsticker, Marie Van Saer. Et pour finir, le premier iPhone pliable format passeport est devenu réalité. Il est aussi l'iPhone le plus cher de l'histoire, 2 339 € en Belgique. Stéphane Zibi vous a tout expliqué dans sa chronique New Tech à 7h30. Vous la retrouverez sur notre site internet radiojudaica.be.